La cité ardente ce soir n'a jamais aussi bien porté son nom. Non loin des cathédrales de feu, ces hauts fourneaux qui semblent contempler la scène avec curiosité, c'est tout un peuple qui accueille ses héros. Le stade Maurice Dufresne à Sclessin est en ébullition. Ils sont des dizaines de milliers dans les travées à chanter et à brandir d'innombrables drapeaux. Dans 4 jours, le Standard se déplace au Camp Nou pour y affronter en finale de Coupe des Coupes le grand FC Barcelone. Mais avant cela, il lui reste une étape décisive à franchir. Ce soir, le club peut devenir champion de Belgique. Un sésame qu'il attend depuis 1971. Il y a dans les tribunes deux ombres qui se faufilent. Thierry Luters est un jeune journaliste sportif, correspondant pour la dernière heure. Il est accompagné d'une figure liégeoise, le professionnel de presse, Raymond Aretz. Les deux hommes, au milieu de l'inénarrable ambiance, observent l'enceinte sportive en fusion. Impossible pour eux de manquer le dénouement d'une saison qui a tenu en haleine tout le pays. Le Standard peut se contenter d'un petit point ce soir pour devenir champion. Mais attention, un faux pas et le grand rival du Sporting Anderlecht pourrait bien rafler la mise. C'est sur le terrain donc que tout va se jouer ce soir. À moins que sans le savoir, le spectre d'un terrible scandale ne se cache là, dans les tribunes et les couloirs de Sclessin. Nous sommes le 8 mai 1982. Il est très peu de temps avant 20h, et c'est l'heure H de mon histoire. Sur place, prenez la température.
Comment sont les supporters avant le match?
Fort excités, on parle beaucoup de résultats, à venir ou pas. Alors, à la sortie, bien entendu, c'est la grosse ambiance.
Un autre journaliste, Aretz, est le roi des infos. Il en donne une à Luters, alors que le coup d'envoi est sur le point d'être donné. Tu vois ce petit gars de l'équipe d'en face? Ben, figure-toi qu'il vient de signer à Liège. L'année prochaine, il joue en rouge. L'équipe d'en face, c'est celle de Waterskey, un club limbourgeois, ami du Standard. Les deux capitaines des équipes, Eric Gerets pour les Rouges et Roland Janssen pour les gars du Limbourg, sont voisins. Ils sont aussi les meilleurs amis du monde. Mieux, il y a même deux membres d'une fratrie, les Plessers, qui sont présents de part et d'autre de la pelouse. En somme, le Standard est sur une voie royale pour enfin ramener à la maison le trophée tant convoité de champion. Les Standardmen ont conjuré le mauvais sort en 1981 en raflant la Coupe de Belgique et la Supercoupe. Mais il faut bien se le dire, la compète qui s'achève ce soir à domicile n'a clairement pas la même saveur ni le même prestige. Thierry Luters, bien placé dans la tribune de presse, contemple les acteurs du combat à venir. Il termine le réchauffement. Sur le banc de touche liégeois, Raymond Goutals, Raymond la science comme on l'appelle, semble particulièrement nerveux. Et on peut le comprendre. Malgré des années fastes passées chez l'ennemi du Sporting d'Anderlecht, il n'a jamais été champion. Une tâche dans sa carrière qu'il espère bien effacer ce soir. Les chants résonnent partout et l'enceinte, pleine à craquer, est impressionnante. Le coup de sifflet de l'arbitre lance les hostilités. 90 minutes avant le 7e titre. 90 minutes pour la gloire. Dans leur maillot blanc bardé de lignes fines, transversales rouges, les joueurs du Standard déploient leur jeu avec une facilité déconcertante. Dans les cages, sautant d'un pied sur l'autre, Michel Preud'homme est prêt à étaler toute sa classe. Le gamin d'Ougré est l'une de ses fiertés de la région. Il est chez lui ici, sur la pelouse de l'antre rouge. Faut bien dire que partout sur le terrain, le Standard a fière allure. « Quelle équipe !» murmure Luters à son mentor dès les premières minutes de jeu. des internationaux, des stars mondiales. C'est bien simple. Le club a été capable de se hisser pour la première fois de son histoire en finale de Coupe d'Europe. C'est pas rien tout de même, quand on s'apprête à affronter le grand FC Barcelone d'ici quelques jours. Raymond Hart, lui, sourit. Il contemple la fougue de la jeunesse de Luther, c'est comme un sage, tente de la mesurer. Ils sont exceptionnels cette année, c'est vrai. Mais leur problème, Thierry, c'est la profondeur de leur banc. Si un ou deux joueurs se pètent ce soir, je donne pas cher de leur peau dans 4 jours en Espagne. Il a raison, le journaliste. Un être vous manque, et tout est dépeuplé. Guéretz, Wendt, Tahamata, tous vont devoir faire attention à ne pas se faire découper au crépuscule d'une saison qui s'annonce d'anthologie. Luthers acquiesce, il n'en pense pas moins. Le risque est faible de voir une opposition vive ce soir. Waterskay est déjà en roue libre, assuré de terminer en milieu de tableau et de ne pas connaître l'angoisse de la relégation. Quel enjeu pour eux d'aller gagner à Sclessin et de montrer une grosse agressivité. Favoriser le Sporting d'Anderlecht? Certainement pas. D'ailleurs, les minutes s'étiolent au chronomètre et déjà, un constat clair s'impose. Les Rouges ont le pied sur le ballon. Ils ne veulent pas laisser passer leur chance. Sur son banc de touche, Raymond La Science s'égosille. Comme s'il cherchait à couvrir les clameurs des dizaines de milliers de fans réunis dans les travées. Il faut marquer, et vite. En jaune et noir, l'équipe du Limbourg semble prendre l'eau. Ils ne vont pas tarder à être punis. Sur une superbe remise de la tête d'un coéquipier, Van der Smissen s'arrache pour mettre la balle au fond. 1-0. Sclessin exulte. Mais les joueurs du Standard ne veulent pas en rester là. Ils poussent encore, se procurent de grosses occasions, avant de voir deux de ces stars sortir du bois. Le long de la ligne de touche, Tahamata sert parfaitement Wendt, le meilleur buteur de l'équipe. Le Suédois reprend première intention et ne laisse aucune chance au gardien adverse. Et ça fait déjà 2-0. Le stade le comprend. Cette fois, ça sent bon. Dardenne, la nouvelle coqueluche du club, lui qui a qualifié le Standard en finale de Coupe d'Europe, parachève le succès d'une tête plongeante. Waterskay tente bien de reprendre la main, mais ne parvient qu'à inscrire un goal en fin de match. Résultat, 3-1. Le stade explose.
21h45, le Standard l'emporte 3-1. Il est champion de Belgique. C'est l'envahissement de la pelouse, la police est débordée. La cohue est telle qu'un seul joueur pourra accomplir un tour d'honneur, le capitaine Eric Guéretz.
Le coach Raymond Goethals et ses gars vivent une des plus belles pages de leur carrière sportive. La joie chez eux est pourtant mesurée. Leurs esprits se braquent immédiatement du côté de l'ogre barcelonais. Les Espagnols les attendent déjà de pied ferme. À moins qu'autre chose ne vienne ternir un peu la fête. Dans la tribune de presse, Luthers et les autres ne remarquent rien. C'est parce qu'ils viennent d'assister à un véritable numéro d'illusionniste. Que s'est-il passé ce 8 mai 1982 sur la pelouse de Sclessin qui sortent de l'ordinaire? Le Standard de Liège, qui vient de remporter son 7e titre sur la scène nationale, est-il simplement concentré sur sa finale de Coupe d'Europe? Rien n'est moins sûr. Notre histoire du jour, elle, est une tache noire, indélébile, dans le palmarès de l'un des plus grands clubs du royaume. 1983. La Dream Team du Standard n'a pas faibli. La saison dernière, pourtant, s'est terminée dans les larmes. Malgré le titre de champion obtenu à Sclessin, la Coupe des Coupes a échappé aux troupes de Guéretz. Le Barça, bien aidé par l'arbitre central, diront certains après le match, l'emporte de 1. Ah, c'est rageant. Mais pas de quoi battre le capitaine des Rouges. Il est à lui tout seul un symbole, celui de la réussite d'une équipe qui ne cesse d'impressionner. La saison de la confirmation n'a pas manqué de tenir toutes ses promesses. Bilan, 2 nouveaux titres avec une super coupe et un autre titre de champion dans la besace. Mieux, Guéretz a passé un cap personnel. Le barbu est entré dans une nouvelle dimension. Le voilà propulsé capitaine de l'équipe des Diables Rouges et plus encore, soulier d'or. Avec beaucoup de modestie, il dira.
J'ai peut-être dû travailler beaucoup plus que des gens qui ont plus de talent, comme Ludoku par exemple, qui a certainement plus de talent que moi, mais grâce à mon travail, je suis devenu ce que je suis maintenant. Et cette année, certainement, j'ai peut-être fait encore plus que les autres années pour devenir le meilleur joueur belge. Et je suis réussi, je suis très content.
Bref, la grande classe. Sportivement, tout va pour le mieux. Le coach a été conforté dans son poste et l'ossature de l'équipe est reconduite depuis plusieurs saisons. Il faut dire ce qui est. Guéretz et ses gars peuvent regarder à peu près n'importe quelle équipe dans les yeux, et ce, sur tout le continent. Oui, mais voilà. Il y a bien quelque chose qui, au fond de lui-même, turlupine l'inimitable capitaine. Cette épée de Damoclès, c'est la fin de la saison 82. Mais pourquoi ? Le beau récit qu'on a vendu aux supporters des Rouges et aux amateurs de ballons ronds du Royaume ne semble pas si immaculé qu'il n'y paraît. La saison de la confirmation, pour lui, est aussi la dernière au Standard. Le capitaine quitte le navire, direction le Milan AC, en Italie. Sa carrière est sur une pente ascendante et le brassard d'un des plus grands clubs du monde lui tend les bras. Guéretz, comme une bonne partie de ses anciens coéquipiers et des instances dirigeantes du Standard, ne va pas tarder à se retrouver au cœur d'un incontrôlable tourbillon. En cause, le travail d'un magistrat chargé d'enquêter sur le monde du foot. Il s'agit du juge Guido Bellemans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va provoquer un véritable choc dans tout le pays. À partir d'octobre 1983, Bellemans est mandaté afin de mener une enquête sur les comptabilités des clubs pro en Belgique. Les scandales dans le monde du ballon rond sont alors légion. Au tout début des années 80, le Totonero en Italie provoque d'énormes remous. L'affaire de paris illégaux et de trucage de matchs fait beaucoup de bruit sur tout le continent. Deux géants, le Milan AC et la Lazio, sont même rétrogradés en deuxième division après l'éclatement du scandale. Les joueurs ne sont pas en reste. Paolo Rossi, futur ballon d'or, est condamné à 2 ans de suspension après la mise en lumière de l'affaire. Toutes ces magouilles footballistiques, à vrai dire, ne sont pas nouvelles. Dès les 60s, de nombreux cas sont pointés du doigt, en Belgique comme ailleurs. En 1963, Waterskay est accusé d'avoir soudoyé un de ses anciens joueurs dans un match décisif pour sa montée en D1. Reconnu coupable, le club est rétrogradé en D3. En 1976, c'est l'affaire Jurion qui fait beaucoup de bruit au Royaume. En 1981, c'est le club légendaire du Berskot AC qui est pointé du doigt par un adversaire de D1. Tentative de corruption. Relégué, l'ancien mastodonte s'enfonce dans la crise. Autant dire que le récent succès du football national sur la scène européenne attire l'attention. Le Sporting d'Anderlecht et le Standard de Liège, au début des années 80, se tirent la bourre. Si sur le plan national, les coéquipiers de Guéretz semblent plus solides, en Europe, les mauves en imposent. Dans le cadre de ces 10 ans d'existence, la Royal Belgium Football Association cherche à faire un état des lieux autour de la situation des clubs du pays. C'est ainsi que Guido Bellemans mandaté par l'administration fiscale, se lance dans une enquête sur le championnat national. Il n'en est pas à son coup d'essai. C'est déjà lui, entre autres choses, qui mit la main sur le scandale de l'affaire Jurion quelques années plus tôt. Ce qui est clair, dans le cas présent, c'est que le magistrat ne sait pas encore dans quoi il est tombé. En fouillant dans la plupart des services de compta, Bellmans découvre des caisses noires. Autrement dit, de l'argent, parfois des sommes énormes, dissimulées au fisc. La pratique, qui semble dingue, est presque générale. La magouille d'un ancien temps hérité de systèmes en place bien avant la fondation de la Royal Belgium Football Association est presque institutionnelle. Mais le scandale déjà salé n'est que le préambule d'une affaire bien plus explosive. Et la bombe, elle, explose un peu par hasard. Le 22 février 1984, les équipes du juge se chargent d'éplucher les documents financiers du Standard de Liège. En parcourant les liasses et les liasses de pièces comptables, Guido Bellmans tombe sur un petit carnet qui ne paye pas de mine. Il appartient à Roger Petit, secrétaire général du club. Lorsqu'il le passe en revue, le juge tombe de sa chaise. Les Rouges, d'après les éléments dont il dispose, ont acheté le dernier match de la saison 1981-1982 dans la course à leur 7e titre. C'est une mention manuscrite, toute simple, qui met le feu aux poudres. Guttals Genk, 500 000 francs, 150 000 francs. Une somme d'argent venant des caisses du Standard mis à disposition du coach afin de truquer une partie décisive. Ça ne semble pas sérieux. Et pourtant, 28 février 1984, le magistrat convoque l'ancien capitaine des Rouges, Eric Guéretz, le coach Raymond Guttals, le secrétaire général et propriétaire du petit carnet incriminant le club, Roger Petit. En outre, un joueur de l'équipe de Waterskay est lui aussi interrogé par le juge d'instruction. Il ne faut pas des jours pour que la magouille, jusqu'alors dissimulée, ne soit mise au jour. Et c'est bien simple. Toutes les parties interrogées, des joueurs ou responsables de l'institution, avouent les faits lors de leur interrogatoire. Comme Guéretz, dans cette interview presque émouvante.
Je suis mêlé dans des trucs assez désagréables. J'ai 29 ans, c'est ma faute parce que je ne devais pas être malé dans des trucs comme ça. Enfin, il y a des circonstances, heureusement, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire comment les choses sont pour 2007.
Oui, ouais, le dernier match de la saison 82, décisif pour le titre, a été le théâtre d'une tricherie. Oui, une partie des joueurs de l'équipe est mêlée à l'affaire. Et oui, Eric Guéretz, plus que ses camarades, est mouillé jusqu'au cou. Mais le capitaine des Diables n'est-il qu'un intermédiaire? Est-il plutôt le cerveau de l'opération? Le coach Guttals et sa direction sont-ils des marionnettes ou des acteurs majeurs du scandale? À ce stade, difficile de le dire. Ce qui est certain, en revanche, c'est que tout le football belge, aux yeux de l'opinion nationale, mais plus encore européenne, va se discréditer totalement. Guéretz est le symbole des Diables Rouges à l'étranger. Son statut au Milan AC, indéboulonnable, arrière titulaire et rapidement capitaine du club, lui donne des responsabilités. La presse nationale, de son côté, se jette sur le dossier avec l'envie d'en découdre. L'une des plus grandes équipes du pays ne devrait son irrésistible ascension qu'à une affaire de triche. Le dossier est brûlant. Cela, vous pouvez me croire, n'est pas prêt de changer. En première ligne, l'ancien capitaine des Rouges est sommé de s'expliquer. Et au milieu de la cohorte des coupables, il est le seul à prendre la parole, n'hésitant pas au passage à jeter un nouveau pavé dans la mare. nous sommes à Halle, quelques jours après les révélations choc au sujet du scandale du Standard. La Belgique est encore abasourdie. Sous le choc, les différentes auditions ont permis de mettre au jour une innommable corruption qui a décidé de l'issue du championnat 82. Mais face à la vindicte populaire, les mises en cause se dérobent. Il n'y en a qu'un qui se décide à assumer son rôle dans la mascarade devant les journalistes. Éric Guéretz, à la mine des mauvais jours, il avance tête baissée, au devant des caméras et des micros. Le joueur du Milan prend son courage à deux mains. Ce matin, il veut s'expliquer, et plus encore, rétablir sa vérité.
J'ai commis des fautes que je ne pouvais pas commettre. J'ai commis des fautes, je suis coupable de certaines choses. Seulement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent parler pour moi, qui peuvent dire comme les choses se sont précisées. Donc tous les joueurs, je crois qu'ils vont être assez honnêtes, de raconter comme les choses se sont produites.
Dans l'assistance des professionnels de la presse, c'est la stupeur. Le capitaine réitère les propos qu'il a tenus devant le juge d'instruction, à savoir que plusieurs cadres de l'équipe sont des parties prenantes de l'affaire.